Morning Edition from NPR News.
That's it, he's on people house.
France Inter, le 18-20.
Ce soir, nous sommes au Portugal, le pays européen où il fait bon vivre, celui qui a renoncé à l'austérité, qui a remonté son économie, le pays sans populisme et sans crise sociale. Mais est-ce que le tableau est vraiment si rose? À la veille des élections législatives, c'est ce qu'on verra ensemble dans un instant. Le bruit du monde résonne en Corée du Sud ce soir, où l'on discute, où l'on distribue des enceintes connectées pour rompre la solitude, justement, des plus vieux. On discute avec l'enceinte. Et puis en Inde, vous verrez qu'une guerre de l'oignon est en cours et c'est très sérieux, ça parle d'enjeux diplomatiques. 18h50, l'Europe, tu l'aimes et tu la quittes, c'est Pierre Benazet avec une histoire de pénurie de chauffeurs en Espagne. 18h55, le monde à l'envers et Franck Madvon ce soir en Tunisie avec un candidat en prison et le deuxième tour de ces élections à venir. Est-ce que ce pays est vraiment en train de rater sa démocratisation? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Yves Léonard.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'histoire contemporaine du Portugal notamment. Vous avez écrit avec Albert Alain Bourdon de l'histoire du Portugal, pardon, j'y suis, édition Chandaigne, et on a beaucoup de chance puisque ça sort aujourd'hui même. Donc, voilà. Voyez, vous êtes pile dessus. C'est vrai qu'on aime bien les superlatifs, on aime bien les images d'Épinal, nous en journalisme. Alors quand on parle du miracle portugais, y a-t-il un miracle portugais ou en tout cas quelque chose qui fonctionne à contre-courant total de tous les voisins?
Quelque chose qui fonctionne à contre-courant, oui. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits depuis 4 ans, puisqu'en fait, la politique qui a été menée était très différente de celle qui avait précédé et surtout de celle qui était menée à l'échelle européenne. C'était une politique de relance par la demande, notamment, avec une volonté de tourner la page de l'austérité. Après, la notion de miracle, c'est beaucoup plus discutable, parce que d'abord, il y a un côté inexplicable dans le miracle qui va pas, qui convient pas. Il y a pas mal de facteurs explicatifs qui permettent de rendre compte de cette situation un peu atypique au Portugal. Et puis aussi quelques zones d'ombre, quelques difficultés, quelques tensions qu'il ne faut pas minorer. Et je crois qu'on est passé, pour le Portugal, d'une période où il était sorti un peu des écrans radars à une période où là, tout le monde se focalise un petit peu dessus, au risque de commettre des erreurs d'appréciation.
Cela dit, c'est toujours un pays sans bruit, un pays sans heurts. C'est vrai qu'on en parle finalement assez peu de ce pays. On a l'impression que les choses coulent de manière beaucoup moins heurtée que, y compris les voisins espagnols, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Anglais un peu plus haut, on n'en parle même pas. Nous-mêmes, les Italiens, c'est un pays sans heurts, en fait.
Oui, en un sens. Enfin, il y a eu un grand moment où tous les projecteurs été braqué sur le Portugal, c'était il y a plus de 40 ans, c'était la révolution des œillets, le 25 avril. Il y a une vingtaine d'années l'Expo universelle de Lisbonne. Et puis, c'est vrai que le Portugal ne se fait pas remarquer, c'est peut-être dans son ADN. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est assez apaisée, très stable politiquement par rapport aux voisins européens.
Alors, vous disiez effectivement que on n'explique pas tout, en fait, de ce miracle-là. Donc, il y a eu une espèce de mélange, on va dire, à la fois on essaye de pas trop incommoder Bruxelles, mais on fait des vraies mesures qui sont des mesures sociales, je pense. La hausse du salaire minimum, la hausse des retraites, le retour aux 35 heures chez les fonctionnaires, etc. Et est-ce qu'il y a eu parallèlement à ça quand même une sorte d'alignement de planète d'une économie plus globale, de l'économie européenne ou économie mondiale qui explique qu'on est arrivé à des chiffres qui sont effectivement des chiffres impressionnants à l'échelle de l'Europe?
Il y a eu ça, il y a eu ces mesures, et puis au moment où elles se sont mises en place, il y a fait effectivement un contexte qui était beaucoup plus porteur. D'abord parce que, par exemple, les prix de l'énergie, les prix des combustibles ont baissé lorsque ces mesures se sont mises en place. Donc tout ça a contribué à donner une bonne impulsion. Et puis le Portugal partait vraiment de très très loin. Alors il y a des mesures d'ailleurs qui ont été adoptées pendant les périodes d'austérité sur lesquelles le gouvernement n'est pas revenu. Notamment tout ce qui est, on pourrait qualifier de flexibilité du marché du travail, de dérégulation du marché du travail, des mesures d'incitation fiscale, les fameux visas dorés, visas gold, tout ça est resté en place. Et puis il y a eu cette volonté, cette politique très volontariste de relancer par la demande, par la consommation, et de continuer cette montée en gamme dont on a parlé concernant le Portugal, un pays qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il était il y a une trentaine d'années, et qui aujourd'hui est capable de promouvoir une sorte de made in Portugal qui le rend très très attractif.
Est-ce qu'il y a au fond une forme d'austérité malgré tout qui porte pas son nom quand on voit qu'on a taillé dans les investissements, on a augmenté un certain nombre de taxes sur les sodas, sur les carburants aussi que vous citiez. Il y a toujours une dette quand même qui est à 130% du PIB, donc on est dans des proportions qui ressemblent à l'Italie ou la Grèce. Donc est-ce qu'on n'est pas aussi au fond quand même dans une espèce d'austérité déguisée? Enfin, on est dans un entre-deux en fait, non?
Oui, on est parti de très loin. Il y a ces mesures qui ont porté leurs fruits, mais par exemple en termes de rémunération, en termes de pauvreté, en termes de précarité du travail, il y a encore beaucoup de difficultés présentes. Et c'est vrai que c'est un portrait, en fait, un tableau assez contrasté qu'il faudrait proposer. Parce qu'il y a des choses qui attirent l'attention et qui sont très positives. Et puis, dans le même temps, il y a des éléments très problématiques et qui font que l'austérité n'a pas complètement disparu au Portugal. Et notamment, la baisse du chômage et l'assouplissement, enfin les améliorations.
6,2%
de chômage. Voilà, 6,2. Ouais. On est parti de 14 ou 15 il y a encore 4-5 ans. Tout ça, ça a été aussi au prix. Enfin, ça s'est fait. Le marché du travail privilégie une très grande précarité.
Ça ressemble au mini-job à l'allemande ou des choses comme ça ou les jobs zéro heure des Anglais.
Il y a un peu de ça. On est parti de ça, donc il faut en sortir, mais ça prend du temps. Et puis aussi, c'est une économie qui souffre. Ça a été souvent relevé d'une faiblesse. Ça a été fait aussi un peu au détriment de l'investissement public, qui n'a pas été à la hauteur ces dernières années parce qu'il a fallu faire des choix et parce qu'il y avait des impératifs que les autorités ont souhaité respecter. Le ministre des Finances, Mario Centeno, préside l'Eurogroupe. Il s'est inscrit dans cette logique et il a eu comme priorité de faire baisser, et c'est d'ailleurs une réalité, le budget de l'État, le déficit du budget public, qui aujourd'hui est nul. Il n'y a pas de déficit.
Alors vous le disiez effectivement, des emplois qui peuvent être précaires, mais où est l'emploi aujourd'hui? Qu'est-ce qui embauche au Portugal?
Alors, il y a eu des éléments très 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 forts ces dernières années, notamment autour du tourisme. Le tourisme a été l'un des leviers de cette croissance portugaise. Ça et les exportations. Les exportations, ça s'est fait aussi beaucoup sur des secteurs qui étaient traditionnels au Portugal, mais qui se sont complètement renouvelés ces dernières années.
Comme
tout ce qui est l'industrie de la chaussure, d'accord, le textile, comme le vin aussi. Quand on voit ce qui a été entrepris depuis 20 ans, c'est tout à fait étonnant. Et puis aussi une tonalité pas forcément très pourvoyeuse en emploi, enfin c'est des emplois souvent qualifiés, mais le concept un peu de start-up nation. Enfin, il y a le Web Summit, enfin il y a toute cette dynamique sur l'investissement dans des petites entreprises, etc., qui est assez significatif au Portugal. Donc c'est tiré par le tourisme, par quelques secteurs qui se sont renouvelés et les exportations qui tirent. Donc une forte dépendance aussi à la contrainte extérieure et au contexte international.
Vous avez cité le tourisme, est-ce que ça reste un petit pays en taille, le Portugal? Est-ce que c'est un pays qui a les reins assez solides pour porter une manne de tourisme, effectivement, qui a été, je ne connais pas la multiplication, peut-être que vous allez pouvoir nous la donner, mais où on a vu un afflux de touristes important. Parfois, je me souviens, ça a été notamment au détriment de la Tunisie, lorsqu'il y a eu des attentats en Tunisie, on est allé chercher le soleil au Portugal, il y a eu beaucoup de choses comme ça, il y a les prix qui n'étaient pas chers, il y a les Golden Visa dont vous parliez. Est-ce qu'il a les reins solides, ce pays, pour accueillir autant de monde ou pas?
Alors, d'abord, il a des atouts indéniables, c'est-à-dire un patrimoine culturel, historique, une beauté des sites. Enfin bon, je vous fais
tout
pas la liste.
Tout le monde adore aller au Portugal, le fait est que c'est vrai. Ouais.
Voilà, c'est the place, enfin c'est venu l'endroit où il faut être. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des atouts considérables. Après, il y a eu là aussi, sur l'industrie du tourisme, l'hôtellerie, une montée en gamme. Il y a eu des constructions d'équipements qui ont permis d'accueillir. Maintenant, ça pose un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a eu un peu plus de 20 millions de touristes l'an dernier au Portugal, ce qui est quand même, compte tenu de la taille du pays, c'est quand même un chiffre assez révélateur. Ça se fait notamment dans les grandes agglomérations, notamment à Lisbonne, un peu au détriment aussi de la vie des Lisboètes, des habitants. C'est toute la problématique notamment des Airbnb, se sont multipliés dans les centres-villes et qui ont vidé progressivement ces quartiers historiques de leurs habitants. Qui ont fait exploser les prix. Il y a une spéculation immobilière qui a été très très forte ces dernières années, qui font que les Portugais, je rappelle que le salaire minimum au Portugal est un peu supérieur à 600 euros par mois, ce qui fait que les loyers et les prix immobiliers sur une ville comme Lisbonne ont tellement augmenté qu'ils ne sont plus accessibles à une grande partie des Portugais aujourd'hui. Donc, ça pose un problème et la traditionnelle ouverture, bienveillance, qualité d'accueil, elle peut parfois en souffrir parce que, à Lisbonne notamment, mais pas seulement, et sur le littoral aussi, on sent bien que cette présence massive des touristes Elle est un facteur de croissance, elle permet de trouver des emplois, mais elle se fait aussi un peu au détriment de la qualité de vie locale et elle interpelle beaucoup les Portugais, notamment à Lisbonne.
En quoi ça rapporte réellement au Portugal d'être le nouvel Eldorado des gens très riches, des stars et autres, parce qu'effectivement fiscalement c'est très intéressant. Est-ce que vraiment ça a du sens pour le Portugal, ça? Ça a été vraiment un point d'attrait ou pas?
Oui, alors ça a du sens, c'est-à-dire que d'abord ça braque les projecteurs. Ouais. Quand vous avez
on paye pas d'impôts pendant combien de temps quand on s'installe
Bon, il y a différents leviers. D'abord, il y a l'incitatif fort qui était et très critiqué et critiquable des Golden Visa, qui fait que pour un investissement de 500 000 euros, il y a possibilité d'obtenir un visa pendant 5 ans. Et donc on a vu affluer des capitaux d'origines diverses venus de différents pays. Mais les stars, par exemple, les célébrités qui se sont installés à Lisbonne. Il y a eu l'effet Madonna à une époque, notamment, parmi les plus emblématiques. Bah, c'est vrai que dans l'opinion publique, dans le grand public, ça donne une image totalement différente et très moderne, très attractive d'un pays qui avait beaucoup de qualités, beaucoup d'atouts, mais qu'il ne savait pas toujours valoriser. Donc c'est un effet loupe, un effet un peu de qui déforme, mais qui attire le regard.
Yves Léonard, comment on explique, parce que c'est vraiment la chose qui nous frappe en Europe, que le Portugal est échappé au populisme pour l'instant apparemment intégralement? Alors c'est un peu la péninsule ibérique en elle-même, puisque le populisme à l'espagnol est très différent de ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Mais enfin ici au Portugal on n'en parle pas.
On n'en parle pas parce que effectivement d'une certaine manière, il n'existe pas sous une forme politique. L'offre politique telle qu'elle se présente pour les élections législatives ne met pas en place, ne donne pas de visibilité à des partis ouvertement populistes et à l'extrême droite. L'extrême droite, le parti d'extrême droite au Portugal fait 0,5% aux élections. Il devrait faire à peu près le même score. Quant au populisme, alors il a été contenu, il s'est exprimé sous différents canaux, par le biais de partis de gouvernement ou traditionnels, au centre-droite et à la droite, qui ont capté aussi une partie de cet électorat. Je pense tous ceux qui étaient nostalgiques de l'outre-mer, de l'Empire, au moment de la décolonisation, les rapatriés au moment de la décolonisation, qui ont été captés par une formation politique là-bas, qui les a contournés, qui les a attirés. Il y a aussi, c'est très important, le souvenir de la dictature et du 25 avril.
Oui, mais les voisins espagnols, c'était pareil, en fait.
Oui, mais les voisins espagnols, il y a deux choses très différentes avec l'Espagne. C'est d'une part, il n'y a pas eu au Portugal cette épouvantable guerre civile, qui est vraiment un choc traumatique considérable pour la société espagnole. Et d'autre part, il y a une transition d'une autre nature par rupture, le 25 avril, en une journée, alors qu'à l'espagnol, elle a été pactée sur un pacte de l'oubli dont on mesure aujourd'hui toutes les limites.
Dans les autres pays, dans les pays voisins, dans le nôtre y compris à certains égards, il faut une espèce de package en fait pour que le populisme monte. Il y a de l'anti-immigration, des problèmes de précarité, tout ça mis ensemble. Ça existe quand même aussi au Portugal. Donc la contestation, elle va se nicher où en fait au fond?
La contestation, elle s'est nichée, on l'a vu au moment de l'austérité, dans les mouvements des indignés notamment, qui a été très précoce et qui a même précédé les mouvements qu'on a observés en Espagne. Mais sur la question du principal combustible, on va dire, pour à la fois l'extrême droite et les mouvements populistes, c'est-à-dire la question de l'immigration, elle se pose de manière totalement différente au Portugal. Il n'y a pas un problème majeur d'immigration au Portugal, pour plein de raisons qui tiennent à l'histoire longue de ce pays, qui fait que ce pays est un peuple de migrants, le président de la République portugaise l'a rappelé récemment, qui fait que d'une certaine manière, il y a des immigrants au Portugal, mais il y a des flux permanent dans ce pays, qui fait que le rapport à l'autre est différent.
Ce sont ceux des anciens pays colonisés,
il y a en gros un peu moins de 500 000 étrangers en situation régulière au Portugal, dont une grande partie sont originaires effectivement des anciennes colonies, de l'ancienne outre-mer portugaise. Mais il y a eu aussi des afflux importants au tournant du millénaire venus d'Europe orientale, Ukraine, Biélorussie, etc. Et puis, il y a un gros problème démographique au Portugal. C'est un pays qui perd de la population. et son solde migratoire. Mmh. Avec la crise, l'austérité, il y a eu des départs massifs, 500 000 personnes ont quitté le Portugal, et en plus, c'est une démographie qui atone. Le taux de natalité est faible, le taux de fécondité ne permet pas le renouvellement des générations.
Et j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a eu des retours quand même? Parce que vous l'avez dit, effectivement, un demi-million de personnes depuis la crise, il y a eu des retours, il y a des gens qui se disent, on a vu des exemples en Angleterre au moment du Brexit, de Portugais qui se disent, eh ben, c'est l'occasion de rentrer.
Oui,
mais il y en a eu
sont...
beaucoup, exactement, surtout qui ne sont pas voilà. bien aimés là-bas, c'est compliqué. Mais il y en a eu beaucoup des retours ou pas?
Alors, c'est encore difficile à mesurer, mais il y a des incitatifs. Il y a le gouvernement qui a incité les Portugais qui étaient partis depuis peu de temps, notamment pendant la crise de l'austérité, ils les ont incités à revenir, ils les ont assistés par des mesures fiscales aussi. Donc on va voir, là le solde est de nouveau positif, le solde migratoire, c'est-à-dire qu'il y a plus d'entrées que de sorties. Mais c'est un vrai problème pour justement coller aussi à ce rebond économique. Hein, il faut qu'il y ait une certaine vitalité, et il y a une recherche aujourd'hui de la part des autorités d'accueillir plus de Portugais, les faire revenir, plus de migrants aussi, parce qu'il y a un accueil aussi favorable à l'immigration pour pallier ce déficit démographique qui fait que si les choses ne changeaient pas, à l'horizon 2060, le Portugal n'aurait plus que 8 millions d'habitants. Il en compte 10 millions et demi aujourd'hui.
Vous nous l'avez expliqué, il y a eu un certain nombre de réformes, et puis peut-être qu'il manquait des réformes structurelles, effectivement, pour que tout ça soit pérenne, au fond. Est-ce que ça veut dire que si demain une nouvelle crise frappait, le Portugal peut retomber aussi vite, ou est-ce qu'il s'est suffisamment stabilisé?
Il y a des éléments de stabilisation qui sont quand même très, très positifs. Je parlais notamment de l'assainissement du marché de l'emploi, les questions de déficit public, etc. Mmh. Maintenant, c'est une croissance et une situation qui est fortement corrélée à la situation extérieure. Le tourisme et les exportations, pour faire vite. Autant dire que voilà, le contexte international, le contexte extérieur va beaucoup peser aussi sur l'évolution de la situation.
Et ces élections sont le 6, donc c'est dimanche prochain. Merci beaucoup Yves Léonard, merci de votre passage dans Un Journal.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite, ça se passe en Corée du Sud, où l'on distribue des enceintes connectées aux plus âgés. Vous savez, ces enceintes à qui on peut parler et qui nous répondent. Le bruit du monde, la suite, c'est Sous les radars. Et Amélie Perrier avec une histoire d'oignons, Amélie.
Oui, pénurie d'oignons en Inde, la crise est majeure, sérieusement, crise politique et diplomatique.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est tous les jeudis, et c'est Pierre Benazé. Quel programme, Pierre?
Je vais vous parler de biomasse aux Pays-Bas, de l'affaire Dutroux qui refait surface en Belgique, des chauffeurs routiers en Espagne et de la famille de Dark Vador qui cherche un chien.
Et à tout à l'heure, Franck Madvon, bonsoir.
Bonsoir.
Le monde à l'envers, c'est en Tunisie avec cette question. Est-ce que la Tunisie est en train au fond de rater sa démocratisation?
Il y a un candidat à la présidentielle en prison, un parlement amorphe, la démocratie tunisienne ne se porte pas très bien en tout cas.
Allez, à tout à l'heure et ne bougez pas, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par Los Angeles avec Haïm, Summer Girl. Ça marche même en automne et c'est dans la playlist d'Inter.
I'm some good. around the corner at you. From over my shoulder, I need you. I need you to understand. These are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses. The fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me.
Le bruit du monde, ce soir est en Corée du Sud, nous sommes dans un centre d'appel et je vais vous expliquer pourquoi avec cette question, la technologie peut-elle être une réponse au problème croissant de la solitude du troisième âge. Pour aider les personnes âgées, les handicapés qui sont seuls aussi, ou tous ceux qui souffrent de solitude, dans ce pays on leur distribue des enceintes connectées, vous savez ces petits haut-parleurs, qui sont branchés à internet et qui se commandent par la voix. C'est un projet pilote, voici comment ça marche avec Frédéric Ojardias.
Aria, passe-moi de la musique.
Chang Eja est non-voyante. Elle vit seule, loin de sa famille, dans un appartement minuscule du centre de Séoul. Elle a reçu en avril cette enceinte connectée baptisée Aria. Depuis, elle lui parle du matin au soir.
Je m'amuse avec Aria comme si c'était une amie. Elle est comme un membre de ma famille. Les gens qui traversent une phase difficile ou qui sont déprimés peuvent discuter avec Aria et se sentir heureux. Elle me donne du bonheur. Elle me raconte des vieux contes traditionnels. Elle me donne la météo. Elle me fait écouter de vieilles chansons si je lui demande. Je l'utilise aussi beaucoup pour écouter les informations et me tenir au courant.
L'enceinte connectée peut aussi donner l'horoscope et déclencher un appel d'urgence en cas d'accident. Mais c'est la fonction conversation que préfère Chang Eja.
Aria est une machine. Une machine dont peuvent se servir les personnes en situation de handicap comme moi. J'espère qu'elle sera plus utilisée dans le futur. Cela aurait été bien si cette technologie avait existé plus tôt. Aria me fait me sentir belle. Elle est mieux qu'un humain.
Nous sommes au ICT Care Center, le centre névralgique qui gère les 2100 enceintes connectées du projet, qui est financé à moitié par l'opérateur SK Telecom. Sur un mur, un immense écran indique les mots les plus prononcés par les utilisateurs, ainsi que leur état psychologique. Quand celui-ci est jugé inquiétant par l'intelligence artificielle, une alerte est déclenchée. Lee Hyun-joo est la psychothérapeute du centre.
Quand un utilisateur dit fréquemment à son enceinte des phrases comme « j'ai envie de pleurer »,« je me sens triste » ou « je traverse une phase difficile », c'est-à-dire des mots qui indiquent un sentiment de solitude ou de dépression, cela déclenche une alerte. Je peux alors cliquer sur ce graphe pour savoir de qui il s'agit. Je lui téléphone ensuite pour lui demander comment il va et pour l'aider de façon informelle.
Le nombre de Sud-Coréens âgés qui meurent seuls a doublé en 4 ans. Un senior sur 5 n'a aucun contact ni activité sociale et le taux de suicide des plus de 80 ans est 3 fois plus élevé que celui des 15-65 ans. Les fortes solidarités familiales traditionnelles se sont délitées avec le développement économique au pas de course du pays. Ce projet de gadget connecté semble être vu par la presse coréenne comme une réponse au problème de la solitude du troisième âge et du manque de travailleurs sociaux.
En tant que psychothérapeute, j'étais un peu sceptique quand j'ai rejoint l'équipe. Je ne voyais pas comment une machine pouvait aider mieux qu'un être humain. Mais j'ai réalisé que c'était vrai, que les personnes âgées communiquaient davantage leurs émotions à l'enceinte connectée que les utilisateurs d'autres catégories d'âge. Ces seniors nous disent qu'ils se sentent bien mieux depuis qu'ils ont quelque chose à qui parler. De plus en plus de cas nous montrent que parler à son enceinte peut apporter une aide considérable aux personnes âgées.
불구하고 어떤 감정적인 부분에 도움이 되고 있구나 라는 사례들을 계속해서 확인을 하고 있습니다.
La Corée du Sud n'est pas le seul pays à se tourner vers la technologie pour aider les personnes âgées. Dans le Japon voisin, plusieurs entreprises développent divers compagnons robotisés pour un troisième âge qui est aussi de plus en plus isolé.
Aria, Aria,
Aria, Aria, je t'aime.
저도 사랑해요.
안녕하세요.
personnellement ça me fait beaucoup flipper, mais merci beaucoup Frédéric Ojardias, on vous aime aussi. Amélie Perrier, ne soyez pas jalouse, le bruit du monde sous les radars, c'est par ici. Eh ben oui, c'est un oignon qu'on entend là, qui est en train de griller. C'est pour ça qu'on en parle, parce qu'en Inde, l'oignon est devenu un enjeu criminel et diplomatique, Amélie.
Et quand la pénurie guette, c'est une crise régionale qui se profile. L'État l'a ordonné en début de semaine, plus un seul oignon ne doit quitter le pays. Sauf que les États voisins comptent sur la livraison de centaines de millions de kilos. Et face à la contrebande qui s'organise, les fonctionnaires menacent de faire des raids, nous raconte un article du New York Times.
Onion prices are making consumers cry.
This surge le prix de l'oignon fait pleurer les consommateurs. Je laisse ce bon mot à la présentatrice d'India Today qui raconte comment les cours du bulbe ont explosé ces derniers jours et d'interroger ensuite cette dame sur un marché. La cliente dit on mange des oignons tous les jours, mais aujourd'hui on ne peut plus en acheter. À ces prix-là, ça explose mon budget. En fait, l'Inde a d'abord été frappée par la sécheresse, puis par la mousson, les pluies diluviennes, pas bon pour les récoltes, il y a eu pénurie, le prix de l'oignon a quasi triplé. Donc interdiction des exportations, interdiction aussi pour les producteurs de faire trop de stocks, ils doivent les vendre. La crise de l'oignon a des conséquences au-delà des frontières de l'Inde. Au Bangladesh voisin, le prix de l'oignon a bondi de 700% au cours des derniers mois. Il a doublé la semaine dernière, nous rapporte le New York Times. Au Népal, les cuisiniers souffrent. L'an dernier, le pays a importé 170 millions de kilos d'oignons indiens. Aujourd'hui, plus rien. On réfléchit donc à importer de l'oignon chinois, mais les gens ne l'aiment pas, nous dit-on à Katmandou. Il a tendance à être trop gros et trop flashy. Et en Inde, ces mesures du gouvernement ne plaisent pas aux agriculteurs, déjà peu favorables à Narendra Modi, le Premier ministre. Le gouvernement veut maintenir des prix bas pour les denrées alimentaires, une bonne chose donc pour les consommateurs, mais pas du tout pour les producteurs. Modi leur a promis des subventions. Les agriculteurs ne voient rien venir, alors ils ont suspendu les ventes, organisent des manifestations et ont même bloqué des routes. Et tout le monde tremble en ce début octobre. La saison des fêtes religieuses s'ouvre et l'on cuisine et consomme toujours plus d'oignons. Alors qui va le plus pleurer à cause de l'oignon indien, les consommateurs ou le pouvoir? C'est à suivre.
La suite, c'est une histoire de famille qui nous raconte le drame d'un pays en Afghanistan.
L'histoire racontée par le reporter Nourullah Shirzada pour l'AFP. Le récit déchirant en mots et en images d'une famille de Jalalabad dans l'est du pays. Ils étaient 10 frères et sœurs et l'an dernier, sur le chemin de l'école, ils trouvent une roquette. Là-bas, on joue avec. Sauf que celle-ci n'était pas désamorcée. Alors voici Shafikula, il a 15 ans, deux jambes en moins. Il raconte aujourd'hui, ce jour de l'explosion, c'était une mauvaise journée. J'ai vu mes frères et sœurs dégoulinant de sang, allongés au sol. Toute ma famille a été détruite. Et Mangal ensuite, son frère de 11 ans, se souvient lui qu'au moment de l'explosion, il a essayé de se lever et de rentrer à la maison. Mais en essayant de marcher, dit-il, je me suis rendu compte qu'il me manquait une jambe. Sur les 10 enfants de la famille, seuls 7 vont survivre à l'explosion. Tous les survivants ont perdu au moins un membre. Image déchirante de ses frères et sœurs enfilant leurs prothèses, essayant tant bien que mal de se déplacer avec. Depuis l'accident, ils sont scolarisés à la maison. Ils doivent quand même se rendre parfois à l'école pour passer les examens. Un trajet douloureux, pénible. Et cette tragédie est à l'image des blessures du pays. Truffée de mines et d'obus pas désamorcés. 2018 a été, selon l'ONU, l'année la plus meurtrière pour les civils. Plus de 900 enfants ont été tués et 7000 blessés. Et cette année 2019 fait craindre le pire, tant la campagne pour l'élection présidentielle a été la cible d'attentats meurtriers revendiqués par les talibans à chaque fois.
Allez, un clin d'œil pour terminer à Londres avec une voix inédite qui s'est invitée ce matin à la Chambre des communes.
Ah oui, je vous laisse l'écouter.
Oh, order, order.
Ouais, quand même. Alors, est-ce que c'est Dark Vador qui s'inviterait à Westminster? Pas du tout. C'est le, d'habitude, très sonore John Bercow qui a perdu sa voix. John Bercow, c'est le speaker, comme on l'appelle, le président de la chambre, qui demande le silence avec son célèbre order, mais un order beaucoup plus clair, hein, d'habitude. Alors, nous aussi, on en perdrait notre voix à 28 jours du Brexit face aux ultimes tractations, mais ça, c'est à suivre dans les jours.
Tiens, attendez. Order. J'adore. C'est vrai que parfois, en même temps, dans le Brexit, on est dans une galaxie lointaine, très très lointaine. Amélie Perrier, merci beaucoup. Voici Donny Hathaway, Little Ghetto Boy.
Little ghetto boy playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Will you spend your days and nights in a pool room? Will you sell kinds of madness to the neighborhood, little ghetto boy? You already know how rough life can be, 'cause you've seen so much pain and misery. Little ghetto boy, your daddy was blown away. He robbed that grocery store. Don't you know that was a sad, sad old day? All of your young life you've seen such misery and pain. The world is a cruel place and it ain't gonna change. You're so young and you've got so far to go, but I don't think you'll reach your goal, young man, hanging by the pool room door.
On l'aime beaucoup, le Little Ghetto Boy de Donny Hathaway, mais il faut qu'on aille à Bruxelles.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, avec Pierre Benazé ce soir à Bruxelles. Pierre, on va d'abord faire un tour aux Pays-Bas où les préoccupations climatiques depuis longtemps sont au centre des préoccupations. Les Néerlandais ont beaucoup investi dans le renouvelable, dans les éoliennes, dans le solaire, mais aussi dans la biomasse. Et ça, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, apparemment.
En tout cas, c'est ce qu'affirme une étude largement relayée aux Pays-Bas ces jours-ci. La biomasse, plus polluante que le gaz et le charbon, affirme-t-elle. Elle a été publiée par le AESAC, qui, pour faire simple, c'est un réseau qui regroupe les académies des sciences de 29 pays européens. Leur conclusion, c'est que la biomasse est une très mauvaise source d'énergie, une affirmation particulièrement d'application aux Pays-Bas, où sont utilisés principalement ces petits granulés de bois compacté. Il serait vain de croire que brûler de la biomasse en quantité puisse être durable, estime le rapport. D'abord, ça produit plus de CO2 que le gaz ou le charbon, et ensuite, les bois qui sont plantés pour remplacer mettront des années à compenser ceux qui auront été coupés, par exemple pour ces anciennes centrales à charbon ou à gaz que les Néerlandais reconvertissent pour la biomasse. L'État néerlandais a prévu une enveloppe de plus de 11 milliards de subventions pour ce faire, et aussi pour les chauffages collectifs, et on commence à se dire ici que c'est de l'argent jeté par la fenêtre, ce qui est particulièrement peu apprécié par les Néerlandais. C'est peut-être donc le début d'un long feuilleton.
Et tiens, un autre feuilleton, Pierre, qui avait un peu disparu des radars, celui-là c'est l'affaire Dutroux, puisqu'en Belgique on en reparle encore, et aujourd'hui plus de 20 ans après d'ailleurs, on en parle encore, donc 20 ans après les meurtres du tueur en série.
Oui, c'est d'ailleurs le temps qui passe qui explique ce retour sur le devant de la scène cette semaine, puisque les protagonistes de l'affaire Dutroux commencent à avoir purgé une bonne partie de leur peine. C'est le cas, par exemple, de Michel Lelièvre, condamné pour complicité à 25 ans de prison en 2004, et qui vient d'obtenir sa libération conditionnelle, si jamais il trouve un logement dans les 6 mois. Marc Dutroux lui-même refait parler de lui, puisqu'il a obtenu une expertise psychiatrique pour statuer sur les risques de récidive s'il devait être un jour éligible à la liberté conditionnelle, malgré sa condamnation à perpétuité, lui.
Allez, tiens, pour pas finir sur un sujet aussi plombant, vous nous emmenez en Espagne, où le trafic routier souffre d'un manque de chauffeurs de poids lourds.
Alors, en Europe, ça concerne aussi une demi-douzaine d'autres pays, dont l'Allemagne, mais vraiment l'Espagne, c'est la plus touchée, selon l'IRU, l'Union Routière Internationale. Un cinquième des postes ne serait pas pourvu, enfin, un cinquième des sièges de conducteurs, et aussi de conductrices, et de jeunes, d'ailleurs, selon l'IRU, parce qu'en Espagne, le chauffeur routier moyen, c'est un homme de 46 ans. L'absence de femmes dans la profession est plus frappante que dans les autres pays. Elles sont déjà peu nombreuses, en général, en Europe, environ 20% des conductrices de poids lourds. Mais en Espagne, elles représentent à peine 3% du secteur. Et figurez-vous qu'il existe même désormais un réseau européen des femmes dans le transport destiné justement à les convaincre de s'asseoir derrière un volant. Alors, avis à toutes les amatrices, les routes espagnoles les attendent.
Tiens, et puis Pierre, pour terminer, puisqu'Amélie nous parlait tout à l'heure de Dark Vador avec la voix du speaker à la Chambre des communes, chez vous, c'est la famille de Dark Vador qui cherche un chien, c'est ça ?
Et effectivement, décidément. Ou presque. Il y a son fils, il y a son petit-fils. Oui, c'est la guerre des étoiles en Angleterre, en Belgique aussi. Enfin, son fils et son petit-fils, enfin, c'est les acteurs qui jouent ces rôles, évidemment. Il tourne un film à Bruxelles en ce moment, et le réalisateur, il a perdu son chien. Du coup, il participe à la recherche de Javelot. C'est le chien, donc, de Léo Scarrax. Luke Skywalker et, enfin, Mark Hamill a posté une vidéo où Adam Driver, qui incarne le petit-fils de Dark Vador, promet à celui qui les aidera: on vous donnera un petit rôle dans le film, on baptisera votre enfant ou on vous donnera du chocolat.
Ah ben, c'est pas pareil. Merci beaucoup Pierre Benazé, à la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Franck Madvon. Ce soir, Franck, c'est la saison des élections en Tunisie, hein, législative ce dimanche, c'est le deuxième tour de la présidentielle le dimanche suivant. Jusque-là, ça se passait plutôt pas mal. D'ailleurs, on le dit souvent, la Tunisie est un modèle des printemps arabes. Elle est passée en quelques semaines de la dictature de Ben Ali à la démocratie. Mais a-t-elle réellement réussi sa transition ? Le processus électoral en cours n'est pas franchement rassurant, et c'est votre monde à l'envers.
Oui, alors le fait le plus marquant, bien sûr, c'est qu'un des deux finalistes de la présidentielle, Fabienne, est aujourd'hui en prison et il le sera encore sans doute le jour du second tour, le 13 octobre. Nabil Karoui a été arrêté fin août. Avant-hier, la justice a une fois de plus rejeté sa demande de libération. Alors que lui reproche-t-on ? Nabil Karoui a 56 ans, c'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans la communication et il est inculpé pour fraude fiscale et blanchiment d'argent à la suite d'une plainte déposée il y a 3 ans et exhumée. Son camp dénonce un complot politique, ourdi notamment par le Premier ministre sortant Youssef Chahed, lui aussi candidat à la présidentielle, et sèchement battu au premier tour. Alors difficile d'y voir clair dans cette affaire, une certitude, Karoui est ambitieux, voire mégalo, il est prêt à beaucoup de compromis s'il serve ses projets. Il a créé il y a 12 ans une chaîne de télévision, Nesma, qui a eu le mérite de couvrir la contestation de 2011, alors que beaucoup de médias tunisiens n'en disaient rien. Cette chaîne est aujourd'hui à son service, ses caméras suivre les campagnes de Nabil Karoui auprès des démunis, ce qui a permis à sa popularité de grimper en flèche.
Alors en tout cas, Karoui donc est en prison et évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie.
Ben non, ça remet en question tout le processus électoral. La présidentielle est-elle crédible? Y a-t-il égalité des chances entre les candidats? Si Nabil Karoui gagne, le nouveau président sera derrière les barreaux et s'il perd, il va naturellement contester le résultat. Quant à l'instance chargée d'organiser les élections, elle se dit impuissante. En vertu de la Constitution, elle ne peut pas repousser le scrutin. Drôle de campagne donc, et c'est là qu'on s'intéresse, Fabienne, à l'autre finaliste, j'ai nommé Kaïs Saïed. Car ce qui s'est passé au premier tour illustre un autre phénomène en Tunisie, le dégagisme, là aussi, le rejet de la classe politique. D'abord, moins de la moitié des électeurs se sont déplacés au premier tour, et les Tunisiens ont choisi non pas un finaliste atypique, mais deux. Saïed est un ovni, il n'a pas d'appareil politique, c'est un universitaire, un juriste austère, surnommé Robocop en raison de son phrasé mécanique. Kaïs Saïed se dit attaché au droit, à la justice, c'est un conservateur soutenu au second tour par Ennahda, le parti islamiste. Il ne compte pas accorder des droits égaux aux personnes LGBT ou modifier l'actuelle loi sur l'héritage défavorable aux femmes. Voilà donc la finale étonnante de cette présidentielle en Tunisie, mais au moins c'est la démocratie, le choix du peuple.
Voilà, la démocratie un peu terne quand même si on en juge par le bilan du Parlement.
Un bilan qui est désastreux. De l'avis général, le régime semi-parlementaire adopté en 2014 n'a pas fait ses preuves. L'Assemblée des représentants du peuple, comme on l'appelle en Tunisie, a accompli très peu de choses en 5 ans. Elle n'est pas parvenue à renforcer les institutions de la Deuxième République de Tunisie. D'après une étude récente publiée par l'ONG Al-Bawsala qui observe la vie politique, 76% des Tunisiens, 76% n'ont plus confiance en leurs députés, jugés au mieux incompétents, au pire corrompus. Le Parlement est morcelé, aucun parti n'émerge vraiment, impossible de gouverner. Et ce dimanche, aux législatives, les candidats anti-système pourraient tirer leur épingle du jeu. Les experts prévoient déjà la dissolution du Parlement et une crise politique. Pas de quoi rassurer le monde des affaires alors que le climat économique est morose, faible croissance, chômage à 15%, dette publique trop élevée. Mais les plus optimistes rappellent que les Tunisiens restent impliqués dans la vie politique, très attachés aux acquis de la Révolution. On ne passe pas de la dictature à l'euphorie démocratique sans quelques soubresauts.
Franck Madvon, Le Monde à l'envers, merci beaucoup. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne. On parle de QI aujourd'hui, juste avant Sébastien Power pour le journal. Ne bougez pas, on gère.